vous suit.
Les titres du journal de la mi-journée.
L'hôpital de Malévaux restera le pôle majeur de la psychiatrie en Valais. Le Conseil d'État a tranché sur une des variantes proposées par la commission d'experts. La vanne de l'écotube s'est ouverte le 1er juin dernier entre la Satom et le site chimique de Montais. Une avancée qui permettra aux deux entités d'économiser jusqu'à 45 000 tonnes de CO2 par an. Un couple de Chablaisiens est parti en 2017 faire un tour d'Asie en catamaran. Ils sont de retour provisoirement en Suisse et nous racontent leurs aventures. Les athlètes vaudois de haut niveau seront mieux soutenus à l'avenir. 1 million de francs a été levé par une nouvelle association. Et Henri Coquet, Montreux va devoir apprendre à vivre dans une autre championnat que la Ligue A masculine.
L'accalmie, c'est pour ce soir. Bulletin météo complet en fin de journal. Journal qui nous est présenté par Martine Vustiner. Bonjour.
Bonjour Caroline. L'hôpital de Malévaux restera le pôle majeur de la psychiatrie en Valais. La commission chargée de formuler des recommandations sur l'avenir de Malévaux a rendu son rapport. Il propose des variantes au Conseil d'État et émet plusieurs recommandations. La variante retenue par le gouvernement consiste à maintenir le site de Malévaux, à rénover certains bâtiments ainsi qu'un développement du site. D'autres changements et améliorations sont également au programme. Mathias Reynard, conseiller d'État chargé de la santé et des affaires sociales.
Il y a toute une série de choses qu'on souhaite développer parce que certaines lacunes qui avaient été pointées du doigt dans les précédents rapports doivent être comblées. On pense notamment à de la prise en charge d'urgence dans le Valais central, ça fait défaut, ou encore le développement des équipes mobiles. Donc on a aujourd'hui un projet qui suscite de l'adhésion de la part de la municipalité de Montais autant que de la part de l'hôpital du Valais et puis qui suscite de l'enthousiasme aussi chez le personnel parce que voilà, c'était pas très serein. Aujourd'hui on vient avec une position claire et puis avec des projets qui sont motivants parce qu'ils sont attendus depuis longtemps par le personnel.
Des propos recueillis par Florian Barbet.
30 ans que les centres de la FOVAM existent à Colombey.
La Fondation Valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle marquera le coup avec sa traditionnelle fête de l'été ce soir au centre d'hébergement de la Meunière. Un événement qui suscite un engouement particulier pour Baptiste Marmy, responsable socio-éducatif de la Meunière.
On est plus enjoué pour différentes raisons. Ben déjà, effectivement, passer les 30 ans, c'est un chiffre rond, ça se fête. Et puis en plus, ben c'est la première fois qu'on peut reprendre après 2 ans d'interruption et de contraintes liées à la pandémie. Donc, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, on a préparé effectivement une grande tente avec un spectacle de Sandrine Viglino qui sera présente pour un best-of. Et puis, tous les habitants de Colombey, nos voisins du centre La Meunière sont les bienvenus pour partager un verre, manger une morse et puis se retrouver tous ensemble.
C'était des propos recueillis par Julie Guay. Si la fête se déroulera au centre de La Meunière, les ateliers du Tonkin situés à proximité célèbrent aussi leurs 30 ans. À noter qu'il s'agit de locaux de production et de sous-traitance destinés à une clientèle extérieure ou aux besoins internes de l'institution. Le personnel des remontées mécaniques valaisannes touchera un salaire minimum de 4000 francs. Après 3 ans de travail, les RMV, les syndicats et le canton sont parvenus à négocier un nouveau contrat type de travail dans ce domaine, avec à la clé cette rémunération minimale ainsi qu'une progression garantie des salaires dans le temps. Mais ce CTT doit encore être déclaré de force obligatoire par l'État pour éviter à l'avenir la sous-enchère salariale.
Il est l'aboutissement de 10 ans de discussions.
L'écotube a été mis en service le 1er juin dernier. La conduite de 2,5 km transfère de la vapeur depuis l'usine d'incinération Satom jusqu'au site chimique de Montais et de l'eau déminéralisée en sens inverse. La construction avait débuté il y a 20 mois, un aboutissement qui fait office de soulagement pour Daniel Baïfard, directeur général de la Satom.
C'est l'aboutissement d'un long projet. Il y a déjà des décennies qu'il y avait ce projet à l'étude. Et c'est la 4e tentative qui aura été la bonne. Donc effectivement, c'est l'aboutissement de maintenant 10 ans de discussions, procédures administratives et 20 mois de travaux finalement. Si on voit la durée des procédures versus le chantier, c'est toujours inquiétant au niveau de la difficulté de mettre en œuvre des grands projets. Mais enfin, c'est un soulagement aujourd'hui. Et l'avènement de ce projet signifie un gain d'efficience énergétique pour Satom et une forte réduction des émissions de CO2 pour le site chimique.
Seul bémol, la guerre en Ukraine pèse sur le prix des énergies, ce qui a une incidence sur l'écotube à Daniel Baïfard.
C'est clair que pour l'instant, Satom est concerné par cette variation des prix, notamment de l'électricité. Pour fournir de la vapeur au site chimique, on doit faire un compromis sur la production électrique, c'est-à-dire qu'on doit produire un peu moins d'électricité. Donc effectivement, on est concerné dans le sens que le sacrifice vapeur coûte plus cher à Satom qu'imaginé initialement.
Daniel Baïfard au micro de Thierry Nicolet. Notons encore que l'écotube permettra aux deux entités montésanes d'économiser jusqu'à 45 000 tonnes de CO2 par année, soit l'équivalent de 11 000 tours du monde en voiture.
Michel et Corinne Lutti, deux Chablaisiens, sont partis en 2017 sur leur bateau Javerne, direction l'Asie du Sud-Est.
Leur périple aura duré 5 ans, une pandémie et de nombreux rebondissements. Ils sont partis sur leur catamaran éco-friendly, conçu spécialement pour eux. Et durant leur voyage, ils ont vécu l'arrivée du Covid-19 dans les îles asiatiques. Michel Lutti.
Mais on ne peut pas dire que ça a compliqué parce que le Covid, on ne sait pas ce que c'était à l'époque. Donc on est arrivé, c'était en mars 2020. Donc nous, on devait participer à un rallye qui allait suivre toute la côte ouest de Sumatra. Et puis on avait tout prévu. Donc nous, on allait descendre Sumatra, on allait croiser sur Madagascar, remonter puis Afrique du Sud, etc. Donc on était prêts, on avait 6 mois d'avitaillement à bord du bateau, tout était nickel. Et on arrive à Sabang, donc pointe nord de l'Indonésie. Et puis là, on nous dit, vous n'avez plus le droit de descendre à terre. On était quoi, une quinzaine de bateaux à ce moment-là, qui participaient justement à ce rallye. Et puis, ils nous ont dit, voilà, vous restez sur vos bateaux. Il y avait toute une organisation qui avait été mise en place. Vous attendez les instructions, l'organisateur va vous dire ce qui va se passer. Donc, on s'est retrouvés sur Nias, au milieu de Sumatra.
La province de Nias. Un gouverneur qui nous a mis à disposition une île. Il nous a dit, vous allez rester là le temps qu'on décide ce que vous allez pouvoir faire.
Donc, on nous dirige sur cette île. On était, toujours une quinzaine de bateaux. Et puis, il faut qu'on s'organise. Donc, vous restez là, vous ne devez pas bouger de cette île. Ok, nous, on veut bien rester sur l'île. Tout le monde était autonome. Puis bon, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. En fin de compte, on a fait 5 mois. On a énormément bricolé sur cette île. On a fabriqué des chaises longues. Voilà un petit peu notre beau confinement. Parce qu'en fin de compte, nous, il était fabuleux, ce confinement. Le masque, on n'a jamais su ce que c'était. C'était un peu du Mickey Mouse Life, si on peut dire comme ça. C'était splendide, ouais.
Des propos recueillis par Léa Journeau. Ils ont déjà prévu de repartir tout prochainement direction Madagascar et les côtes africaines. Leur parcours est à suivre sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet javerne.ch.
Le Conseil du Léman lance la deuxième édition de son prix Cohésion et Solidarité Lémanique.
L'objectif est de valoriser le savoir-faire et l'esprit d'innovation qui s'exprime aux quatre coins du lac. Doté d'une enveloppe de 25 000 francs, ce prix récompense des initiatives de chaque territoire pour faire connaître des réalisations exemplaires. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 septembre. Les lauréats seront quant à eux connus le 25 novembre. Christelle Graff est la nouvelle présidente du comité gouvernemental de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, la HESSO. La ministre neuchâteloise succède à son homologue vaudoise Cézla Amarel, dont le mandat au Conseil d'État s'achève fin juin. La vice-présidence sera assurée par le ministre valaisan Christophe Darbelay. Dans la foulée de la vision agricole 2050 présentée hier par le conseiller fédéral Guy Parmelin, ProNatura lance un pavé dans la mare. L'ONG environnementale constate que dans les 15 prochaines années, la moitié des agriculteurs actuels seront partis en retraite. Dans le contexte des crises de la biodiversité et du climat, l'arrivée massive d'une nouvelle génération de paysans doit coïncider avec une autre façon de produire, plus écologique et qui respecte mieux la nature. La présidente de ProNatura, la fribourgeoise Ursula Schneider-Schüttel.
Ça serait la chance, avec le changement de la génération qui gère une entreprise agriculture, de aussi changer la manière de faire l'agriculture, de la faire plus écologique. Le plus fondamental, c'est effectivement de faire une agriculture qui correspond à nos terrains qu'on a ici, de moins apporter des pesticides, de moins apporter aussi la nourriture pour les animaux et de le produire plutôt ici. Et de plus, de aussi veiller où est-ce qu'on produit de la viande, où est-ce qu'on a les animaux. Les animaux, c'est mieux de les avoir dans les montagnes, par exemple, où on est content d'avoir des prés qui sont bien maintenus, où il n'y a pas trop de forêts. C'est effectivement produire la nourriture là où c'est le meilleur, aussi pour la nature.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Icône du design, l'emblématique couteau suisse célèbre cette année son 125e anniversaire.
Le 12 juin 1897, le coutelier schwitzois Karl Elsner, qui fondera quelques années plus tard la société Victorinox, fait protéger par un brevet son modèle appelé couteau d'officier suisse et de sport. 125 ans plus tard, des millions d'exemplaires sont exportés chaque année à travers le monde. La Suisse doit s'attendre ces prochaines années à une détérioration des relations avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Elle doit donc réfléchir à comment améliorer sa sécurité et contribuer à celle du continent européen, selon Pelvi Pouli, chef de la politique de la sécurité de la Suisse, dans une interview publiée aujourd'hui dans le 24 heures. Les Ukrainiens ont donné l'ordre à leurs forces de se retirer de la ville de Severodonetsk, un verrou stratégique de l'Est bombardé sans relâche par les Russes depuis des semaines, au lendemain de la validation par l'Union européenne de la candidature de Kiev. Bombardé par les forces russes depuis des semaines, Severodonetsk Est est une étape cruciale dans leur plan de conquête de l'intégralité du Donbass. Moscou, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, concentre ses efforts militaires sur l'Est et le Sud depuis fin mars, lorsqu'elle a retiré ses troupes des environs de Kiev. Et en sport, les sportifs d'élite vaudois seront désormais mieux soutenus. Grâce à la création de l'association Vaud Génération Champion, des primes allant jusqu'à 10 000 francs vont être versées à 57 athlètes vaudois de haut niveau par saison. Un besoin de plus en plus pressant si on s'intéresse à ce chiffre. 41% des sportifs professionnels ont un revenu inférieur à 14 000 francs par année. Un montant qui questionne, mais qui n'a pas forcément surpris Caroline Ulrich, membre de l'équipe suisse de ski alpinisme. Elle connaît bien les difficultés qui peuvent survenir dans une carrière.
Ah oui, c'est sûr, je pense que on l'a vu, ça c'est un chiffre au niveau suisse et ça m'étonne pas du tout que ça soit un chiffre autant bas. Donc forcément, il y a toujours besoin d'être financé. Là, je sais que dans mon sport, en tout cas, être professionnel, c'est presque impossible. Donc moi, c'est pas forcément dans mon intention tout de suite, mais le fait d'avoir ça en plus, c'est vraiment... je pense génial et puis nécessaire pour les athlètes. Et puis on atteint peu à peu la possibilité d'être presque professionnel. Donc ça, c'est top.
Caroline Ulrich, interrogée par Ludovic Turin. A noter que pour l'heure, le comité de l'association Vaud Génération Champion s'est fixé un premier objectif sur 3 ans. D'ici 2025, 3 millions de francs seront donc investis pour le sport d'élite vaudois.
En rink hockey, la relégation du Montreux HC en Ligue B est un événement.
Créé en 1911 et sacré champion de Suisse à 5 ans de reprise, le club de la Riviera est une véritable institution sur la scène nationale. Sa chute en deuxième division survenue il y a 10 jours n'a donc rien d'anodin. Lors de la dernière saison, la formation montreusienne a évolué bien loin de ses standards. Mais au vu du renouvellement du contingent et de nombreuses blessures, il semblait difficile d'éviter l'une des deux dernières places du classement. Officiellement relégué en Ligue B, le MHC n'a désormais qu'un seul but, retrouver l'élite au plus vite. Les précisions de Marc-Henri Guibert, membre du comité et ancien président du Montreux Hockey Club.
Être en Liga, c'est vrai pour l'image du club, pour l'image du Montreux Hockey, c'est quand même important. Après, au sein du comité, on ne va pas se mettre vraiment la pression pour remonter à tout prix en Ligue Nationale A. Mieux vaut des fois être une bonne équipe de LNB qu'une mauvaise équipe de Ligue Nationale A. Il y a beaucoup de clubs de Ligue B qui rêvent de jouer en Ligue Nationale A. Il y a beaucoup de clubs aussi qui sont de grande qualité en Ligue Nationale B. Donc on sait aussi que le chemin sera dur pour remonter en Ligue Nationale A. Mais avec l'effectif que l'on a, le mouvement junior que l'on a, je suis sûr qu'on va réussir à remonter assez rapidement.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter que le dernier titre de champion suisse de rink hockey de Montreux HC remonte seulement à 2018, lorsqu'il avait réussi à conserver sa couronne.
L'actu en continu, radiochablais.ca.